Des films japonais au top, un film français très attendu qui arrive dans les salles, ou peut-être même plusieurs, et un super-héros Marvel de retour. Bref, programme hyper chargé aujourd'hui pour Opening Weekend. C'est parti.
Débriefing, c'est un mot valise, il faut le rappeler.
DiCaprio peut me dire merci.
C'est hyper beau le cinéma.
On a un fichier complet partout.
C'est un indicateur si on va l'avoir dans le cul ou pas.
Finalement, ce qui est important, ce sont les gens.
Des gens âgés qui mettent des lunettes.
Ils arrivaient à faire une estimation
comme des observateurs du cinéma.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Débrief Film dans le podcast Opening Weekend. Et ce soir, en ma compagnie de beaux invités, on peut pas dire invités, mais chroniqueurs autour de cette table. Alors, il n'y a pas de filles hein, ce soir, mais uniquement des garçons, et pas les moindres, puisqu'il y a d'abord le retour de Jérémy Tréquesser. Salut Jérémy.
Salut Aurélien, salut à toutes et à tous.
Salut Julien.
Bonjour tout le monde.
Salut Arthur.
Bonsoir à tous.
Et au son, mais également un peu au micro, salut Max.
Coucou.
Nous sommes toujours en direct, en direct des 7 Batignolles au moment où on enregistre, tout du moins, pour vous parler eh bien, d'une semaine cinématographique qui a été riche en entrées. Vous avez peut-être été nombreux à nous écouter et à être allés voir un ou plusieurs films ces derniers jours. En tout cas, les spectateurs étaient là. On va y revenir évidemment précisément avec le succès de ce film dont on a beaucoup parlé la semaine dernière, Le Garçon et le Héron, le nouveau film d'Hayao Miyazaki, qui a séduit au-delà de ce qu'on pouvait espérer. D'ailleurs, je vous remercie, vous qui nous avez écoutés, qui avez peut-être même découvert le podcast la semaine dernière, parce qu'on a fait le meilleur démarrage pour un podcast depuis le début de l'année, pour nous en tout cas. Donc ça fait vraiment plaisir, chaud au cœur. Donc n'hésitez pas à le partager et à rester à notre écoute si cela vous a plu. On va tenter d'être aussi complet et instructif pour vos oreilles que la semaine dernière. Et pour commencer, eh bien, on va changer un petit peu la tradition. Avant de nous orienter vers le box-office US et international, je vais laisser la parole à Arthur qui va nous donner un petit peu des nouvelles de cette semaine. Que s'est-il passé en termes d'annonces ou de révélations de trailers, je ne sais pas comment on peut dire.
Alors cette semaine, on n'a pas eu une nouvelle bande-annonce, mais deux jeudi dernier. La première, il s'agit du film événement de Universal qui sortira le 28 février prochain, The Fall Guy. Donc dans la bande-annonce de The Fall Guy, l'écran s'embrase avec une action effrénée qui promet de ravir les amateurs d'adrénaline. Il faut savoir que le film est réalisé par David Leitch, donc le réalisateur de Deadpool 2 et Bullet Train, ancien cascadeur lui-même. Il faut savoir que le film est de l'adaptation de la série classique des années 80, L'homme qui dort bas pic, qui met en scène un cascadeur lui-même. Donc c'était l'homme tout trouvé pour mettre en scène les nouvelles aventures du personnage principal Colt Seavers. Donc ce sera à découvrir sur les écrans le 28 février prochain. La deuxième bande-annonce tombée le même jour, c'est la nouvelle bande-annonce de la saga de la planète des singes, Le Nouveau Royaume. Exit Matt Reeves, qui a délaissé les singes pour s'occuper de chauves-souris. Mais c'est Wes Ball, le réalisateur de la trilogie Labyrinthe, qui est derrière les manettes de ce nouvel opus qui sortira le 22 mai prochain.
Deux bandes annonces effectivement qui étaient très attendues. Merci beaucoup d'en avoir parlé. Je ne sais pas ce que vous avez pensé d'ailleurs. Est-ce que quelqu'un veut réagir par rapport à ces bandes annonces?
C'est quand même la concrétisation du Barbenheimer. Emily Blunt et Ryan Gosling à l'écran. Un cocktail survitaminé. J'ai eu l'impression d'avoir vu un peu une bande annonce d'un film d'action des années 90. Donc sur le papier, très très alléchant.
Voilà, et même la planète des singes. Tu voulais dire quelque chose, Max?
Moi, je n'étais pas au courant. C'est Arthur qui m'apprend que ces deux bandes annonces sont sorties. Donc, merci Arthur.
Pourtant, elles sont sorties.
Tu sais ce que tu vas faire ce soir.
Les découvrir.
Et on va essayer, comme ça, chaque semaine, un peu de vous mettre l'accent sur quelques petites bandes annonces intéressantes. Tu avais d'autres news à nous communiquer, peut-être?
Avec la sortie de Five Nights at Freddy's, dont vous reviendrez sûrement tout à l'heure un peu plus en profondeur, on aurait pu souligner l'opération marketing mise en place autour de la Paris Games Week. Il faut savoir que le film est l'adaptation d'une franchise de jeux vidéo, donc l'endroit était tout trouvé pour faire la promotion du film parmi le public cible.
On va voir. En tout cas, c'est vrai que les avant-premières du film ont déjà beaucoup fait parler d'elle, et aussi la sortie US et internationale, et la transition est toute trouvée, Julien, pour voir comment se comporte Five Nights at Freddy's. Alors, on rappelle, il faut l'appeler FNAF, c'est ça?
FNAF, apparemment. Exactement.
Voilà, une place pour FNAF. Comment se comporte FNAF au box-office US après son démarrage complètement fou?
Alors tout d'abord, un tout petit box-office US avec 63 millions de dollars de recettes, c'est 50% moins par rapport à la semaine dernière. Alors Five Nights est resté en tête. Alors bien sûr, à la base, à cette date, il y avait la sortie de Dune qui était prévue, qui a été annulée.
Ouais.
Donc forcément, gros trou. Ça laisse un peu plus de place. Mais en tout cas, c'est la première fois qu'un film d'horreur est en tête juste après Halloween. D'accord. Sur le week-end juste après Halloween. Donc lui, Five Nights, cette semaine, il a quand même perdu 76%. Il a ajouté 20 millions de dollars de recettes sur le box-office US. Il est à 113 millions. Donc ça lui fait de lui le film de l'horreur de l'année et quatrième au sein de la marque Blumhouse. Alors est-ce que vous pouvez me ressortir les trois films Blumhouse juste avant Five Nights ?
Est-ce qu'il y a Paranormal Activity ?
Non. Il est à 107.
Est-ce qu'il y a Split ?
Get Out.
Get Out en première position, 176 millions.
Split, non ?
Split, troisième position, 138.
Et American Nightmare 3 ?
Non.
Glass ?
Qui est sorti en 2018. Glass. C'était une franchise.
Ben, c'est pas American Nightmare.
Non, Halloween.
Halloween. Halloween, qui a terminé à 159. Donc 113, on ne sait pas exactement où il va terminer, mais je pense qu'il peut aller jouer sur le podium et aller chercher la troisième place de Split.
Du coup, Julien, moi j'ai une question sur FNAF. Quand on a parlé de la sortie de l'exercice Dévotion, on a dit que Jason Blum espérait passer enfin la barre des 200 millions avec l'exorciste. Est-ce qu'il va en fait y arriver avec FNAF ?
Mais non, c'est ce que je viens de te dire, c'est que ça paraît compliqué tout de même, parce qu'avec cette perte de 76%, je le vois plutôt se positionner autour des 140, 150.
À noter que le film aux États-Unis est une sortie, ce qu'on appelle day and date. Donc avec le film Peacock. Est sorti en salle et en même temps sur Peacock aux États-Unis. Ce qui peut peut-être expliquer cette baisse drastique d'une semaine à l'autre.
C'est possible. On verra en tout cas en France, puisque le film sort mercredi, on en reparlera. Et c'est vrai qu'il avait fait des avant-premières le 31 octobre. Il avait battu tous les records, puisqu'il avait atteint plus de 90 000 entrées. Et c'est tout simplement un record sur cette date.
Eh bien, écoutez, c'est un film en tout cas phénomène, mais qui semble peut-être s'estomper. C'est la grosse question d'ailleurs que tout le monde se pose. Jusqu'à quand les phénomènes durent-ils dans les salles ? On voit qu'il y a des différentes durées d'exploitation maintenant un peu imprévisibles. Et là, quand on démarre aussi fort, c'est une vraie question pour la suite.
Alors, fait important, justement, Five Guys permet en tout cas Universal, distributeur plus Focus, etc., de se rapprocher de Disney, puisqu'il est remonté à 1,728 milliard de dollars de recettes.
728 millions. 1,728 millions.
1,728 millions.
C'est-à-dire 1,728 milliards. Mais donc là, 1,728 millions.
1,728 millions face à Disney qui a 1,729 millions.
Ah oui, donc la bataille de fin d'année est lancée.
Ça s'annonce rude, puisqu'il y aura en plus migration du côté d'Universal et Wish du côté de Disney, mais il y a aussi Marvel qui arrive pour Disney.
Et The Marvel, il sort là aussi cette semaine aux États-Unis ?
Je crois, ça doit être un day and date.
Il sort vendredi.
Ouais, vendredi, un petit peu en avance.
On vous confirmera ça d'ici la fin de l'émission.
Voilà. Bon, et alors, qu'est-ce qui se passe-t-il sur le box-office international ?
International, alors, Five Nights, lui, il est à 217 millions. Lannon, par exemple, il avait terminé à 270 millions. Donc, est-ce qu'il va terminer premier de l'année aussi sur les films d'horreur ? C'est envisageable, en sachant qu'il y a quand même quelques marchés importants où il n'est pas sorti, comme la Corée du Sud, le Japon ou encore la France.
Et je crois qu'on avait aussi d'autres films à mentionner dans ce top, Julien.
Alors on a toujours Taylor Swift, qui est toujours là, qui a fait une belle tenue. Elle a rajouté 13,5 millions, elle est à 165 millions sur le box-office américain. Et au Worldwide, elle est à 231 millions. Alors on va voir, il y a Beyoncé qui sort très bientôt, d'ici 2-3 semaines. Mais a priori, les trackings sont quand même beaucoup moins forts, puisqu'on l'attend autour de... Je crois que c'est autour de 40-50 millions de dollars de recettes.
Mais juste qu'on s'arrête un instant, 231 millions... pour un concert filmé.
Ça a battu tous les records, voilà. C'est pas plus compliqué que ça.
Voilà. C'est historique quand
c'est
même.
Historique.
Il n'y a jamais eu quelqu'un qui a fait autant de recettes
façon,
sur un concert.
De toute façon, je pense qu'aujourd'hui, la réflexion à mener, c'est quand il y a des trous dans la programmation, quel type de programme on peut mettre. Et en tout cas, les concerts d'un niveau de Taylor Swift vont être de plus en plus fréquents.
On rappellera quand même qu'aux États-Unis, il n'y a pas non plus le même calendrier des sorties qu'en France, où on vous rappelle chaque semaine les 10 à 15 sorties de films nouveaux, sans compter les reprises. Forcément que ça change aux États-Unis.
Et parlant des sorties américaines, The Marvel sort bien le 10 novembre, donc vendredi.
Merci pour ces précisions. Donc ce sera bien une toute première séance mondiale au Hall, mercredi matin. On sera là pour voir comment il démarre. Est-ce qu'il y a une grosse attente ou pas?
Alors on a le Loup de Wall Street.
Lapsus révélateur, Killers of the Flower Moon, Scorsese.
Exactement. Qui tient bien lui aussi cette semaine, qui rajoute 7 millions sur l'US et qui au Worldwide cumule 119 millions de dollars de recettes. Alors à titre de comparaison sur le Worldwide, par exemple le Loup de Wall Street, lui, il avait terminé à 406 millions. Et The Departed, il était à 291. Alors, c'est vrai qu'on peut se poser la question, c'est comment on perçoit Killer of the Flower Moon ? Est-ce un succès ou un succès en demi-teinte ? En tout cas, c'est sûr que ce n'est pas un échec.
Pour un film produit par une plateforme, c'est peut-être un record. En tout cas, un film produit par une plateforme sortie.
Alors, quand on regarde de ce point de vue-là, on est d'accord. Si on regarde du point de vue des Scorsese ou DiCaprio, on est quand même largement en dessous des scores habituels. Certes.
Mais le film est quand même exigeant, avec une durée assez longue, pour ne pas dire très longue aussi.
Si on le regarde par rapport à Babylone, c'est un énorme succès au Worldwide.
Oui, c'est vrai aussi.
Au Worldwide. Alors, en France, c'est vrai qu'ils vont terminer à peu près au même niveau.
Peut-être un peu au-dessus de Babylone, quand même. À voir, mais on va voir. Ah, ça se discute, ça, peut-être, il y a débat. Bon, en tout cas, 119 millions, ça reste quand même largement au-dessus des 100 millions. C'était pas gagné d'avance non plus pour cette proposition.
Non, tout à fait.
Quand même assez exigeante, avec un director's cut, ce qui n'est plus tout à fait monnaie courante non plus.
Alors, on continue avec un film chinois, mais je vais vous donner le titre anglais.
Voilà.
La Suspect, lui qui a amassé à lui tout seul 23 millions sur un seul territoire. La Chine.
Et on disait déjà la semaine dernière que la Chine était friande de films un peu murder mystery, ou en tout cas des films avec un côté thriller et whodunit. Et bien, c'est encore le cas pour La Suspect, donc, ce qui montre vraiment un beau penchant de ce cinéma-là en ce moment, tout du moins.
Après, un petit point sur les films d'animation. Donc, la bataille entre Trolls et Pat Patrouille, le combat a été vite gagné par la Pat Patrouille, lui, qui est à 180 millions worldwide, quand Trolls se situe à 56 millions. Le garçon et le héros, lui, qui est sorti.
Et le héron.
Et le héron, j'ai dit le héron,
ah,
non ?
Je crois le héros, mais peut-être que c'était le héron.
Ok, ça bah, cherche les embrouilles ce soir.
Ouais, ce soir on est vigilants. Police, attention.
Donc lui qui cumule 81 millions de dollars de recettes, on reviendra sur son score exceptionnel en France qui a permis à nouveau de booster le marché.
Et d'ailleurs, à signaler qu'il ne serait certainement pas à cette place-là au mondial sans le résultat de la France.
Ah, je pensais que tu allais dire sans le podcast.
Non, alors ça c'est encore une autre histoire, mais on remercie Wellbud, ils peuvent revenir quand ils veulent, mais en tout cas pour le résultat mondial, la France a joué un petit rôle.
On est d'accord.
Et puis il est suivi de... Bah, oui, en fait il y a deux films japonais qui se suivent.
Oui, tout à fait, un deuxième film japonais, Godzilla Minus One.
Voilà, produit par Lato, un producteur mythique.
Lui qui a 8 millions de dollars de recettes. On a Priscilla, le film de Coppola.
De Sofia Coppola.
On est d'accord.
Qui a été acheté en France par ARP, qui est un film A24.
Et donc qui est sorti par A24 aux US, et qui worldwide cumule 5 millions. C'est le score US. Pour l'instant, il est sorti qu'aux US.
Une sortie qui s'élargit, non, pour Priscilla, qui était sortie la semaine dernière sur une combinaison très restreinte.
Sûrement, c'est la méthode assez classique pour les US. T'avoue, j'ai pas les chiffres. Mais non, c'est probable, il a dû sortir dans 2-3 grandes villes. Et c'est vrai que voilà, il cumule 5 millions, mais on reviendra dessus quand il y aura un petit peu plus de matière sur le film.
En tout cas, on rappelle que c'est une sorte de faux biopic sur Priscilla Presley. Donc forcément aussi, ça parle beaucoup aux États-Unis. On verra en France ce qu'il en sera. Ce sera en janvier. On verra ça. Et puis enfin, dixième du tableau.
Radical,
un film mexicain. Alors écoutez, là c'est une surprise, on a rarement des films mexicains dans le top 10.
Et il est à 10 millions au niveau worldwide, il a rajouté 4 millions cette semaine.
Sorti sur deux territoires seulement, Max, vous voulez intervenir?
Non, mais un film mexicain, un film social aussi sur l'éducation, c'est un type de proposition qu'on voit peu. Donc ça fait plaisir aussi de voir des propositions qu'on voit assez peu de nos jours dans le top 10.
Voilà, on aimerait aussi voir un film français dans le top 10 de temps en temps. Le dernier en date, je crois que c'était novembre. Non, il y a eu Les Trois Mousquetaires.
T'as eu Astérix.
C'est vrai.
Tirailleurs aussi.
Tirailleurs qui était arrivé dans le top 10 en début d'année. C'est bien de le rappeler.
Donc mais, ça fait depuis avril.
Depuis avril, on n'en a pas vu. Ouais. Donc peut-être là, sur la fin d'année.
Avec Les Trois Mousquetaires.
Voilà, peut-être. On verra. Voilà pour ce qui était du box-office US et international. Et on va, avant de passer au box-office France, faire le traditionnel quiz. Il est préparé par Max et Max est là cette fois-ci avec nous.
Pour une fois, je suis là.
Alors allons-y.
La première question porte sur les démarrages du mercredi 1er novembre. On a vu le démarrage énorme du Garçon et le Héron mercredi dernier. Et depuis 2000, quel est le plus gros score pour un démarrage un mercredi 1er novembre ?
Je sais, c'est Spectre.
Non, c'était un mardi. C'était un mardi.
Tu veux dire un mercredi 1er novembre?
Un mercredi 1er novembre. Ouais,
le dernier, c'était en 2017.
Mais il y a combien de mercredi 1er novembre?
Pas beaucoup, c'est 2017. Ouais. Et après, à mon avis, tu redescends en 2006. Quoi. J'ai pas la date exacte.
2017, 2006, 2000. Et 2000, on n'a pas les premiers jours. Donc, on n'a pas le premier jour de Roméo doit mourir.
Donc, je pense que sur une sortie, ça doit être 2006. Puisque 2017, il y a eu une ou deux. Mais j'ai pas souvenir que ça ait fait des éclats.
Alors, t'as laissé entendre que Roméo doit mourir allait faire record. Là, franchement.
J'adore Roméo doit mourir. J'adore.
On parle du film avec Jet Li.
Ouais.
J'adore Jet Li. Bande-son de Aliyah.
Ouais, donc c'était pas celui-là en tout cas.
C'était pas celui-là parce qu'on n'a pas les chiffres. Mais non, c'était en 2006. Et il y a deux énormes films qui
sont sortis. Ah, bah oui,
en même temps,
évidemment, prête-moi ta main et ne le dis à personne. Ce fameux duel.
Mercredi, c'est vrai.
Ce fameux mercredi qui était complètement dingue avec le Never Day Hall d'ailleurs. Bah,
c'est
des
quoi un démarrage au-dessus des 300 000 entrées?
Eh ben non, c'est 280 000 pour prête-moi ta main, 205 000 pour ne le dis à personne. Et donc le garçon et le héron s'est placé deuxième avec 227 000.
Magnifique. Voilà, entre les deux. Bien, merci de nous avoir rappelé cette belle époque avec, on le rappelle, Ne le dis à personne, distribué par EuropaCorp, qui n'existe plus en tant que distributeur, et Prête-moi ta main, qui était
Mars
Distribution, ouais. Tout à fait. Voilà.
Alors, deuxième question, on va partir sur l'enlèvement. Entre l'enlèvement et le traître, lequel a fait le meilleur premier week-end?
Moi, je dirais le traître, quand même.
Le traître.
L'enlèvement.
Bah, c'était le trade, bravo à 3 sur 4.
Oui, mais je voulais changer, justement. Ah.
T'aimes tellement que je savais.
Deux films de Marco Bellocchio, hein, rappelons pour ceux qui ne suivraient pas.
Passé par Cannes.
Voilà, exactement.
Ouais, 100 000 entrées quand même, plus de 100 000 entrées pour le traître en opening
il
week-end.
Il avait terminé à combien? À 500 presque, le traître, non?
J'arrive plus à me souvenir. Je sais plus.
Et tous deux distribués par Advitam.
Évidemment.
Exactement. Voilà.
Belle relation distributeur, talent.
Ensuite, cette semaine, on a vu la sortie de Complètement Cramé avec John Malkovich et Fanny Ardant.
Oui.
Et donc, ma question va être sur l'ensemble de leur carrière, qui a fait le plus d'entrées en salle en France entre John Malkovich et Fanny Ardant.
Bah, c'est une belle question.
Moi, je vais dire Fanny Ardant pour être contre mes camarades.
Je dirais Fanny Ardant aussi.
Julien a répondu très très sûr de lui. C'est en effet John Malkovich, mais il y a un écart qui est vraiment minime. Il y a moins de 2 millions d'entrées d'écart entre les deux. 31,2 pour John Malkovich et 29,999 pour Fanny Ardant.
T'as un titre comme ça qui a fait beaucoup d'entrées chez l'un ou chez l'autre.
John Malkovich, c'est quoi celui qui a fait le plus?
Les ailes de l'enfer.
Non, les liaisons dangereuses peut-être.
Dans la peau de John Malkovich.
Non, 700 000 dans la peau de John Malkovich.
Ouais,
je l'ai regardé
tout à l'heure. C'est son meilleur film.
Mais non, le plus gros succès de John Malkovich, c'est Jeanne d'Arc avec 2,9 millions.
Ah oui. Ah,
et
oui.
Le plus gros succès de Fanny Ardant, c'est Pédale douce avec 4,1
millions. Ah, là, c'est fou comment on associe peu finalement ces films à leur filmo.
Oh, Pédale douce, si, quand même un peu.
À Fanny Ardant?
Ouais, je me souviens quand j'étais jeune qu'elle faisait partie du trio. Quoi.
T'étais pas trop Vivement Dimanche, trio c'était plus
c'est
Pédale douce.
Vivement Dimanche, c'est quand j'ai commencé mes études de cinéma plutôt.
Alors, dans le top 3 de John Malkovich, il y a quand même Eragon qui a fait 2,780 000 entrées.
Il est tiré par les cheveux celui-ci.
On attend toujours le numéro 2. D'ailleurs.
Et le numéro 2, c'est la déchirure.
Non, le numéro 2 d'Eragon.
Ah oui, bref, ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. En tout cas, merci beaucoup, Max, pour ce petit quiz. Il est temps maintenant de faire le petit jingle. J'ai dit qu'il n'y a que des petits donc, dans ce podcast pour le débrief des chiffres France.
C'est hyper beau le cinéma.
On va attendre les chiffres impatiemment.
J'ai un indicateur si on va l'avoir dans le cul ou pas.
Et accrochez-vous.
Et là, c'est Jérémy qui prend la parole. Jérémy, le micro est à toi.
Le micro est à moi, mais je commence par quoi? Ben, par les chiffres du week-end, tout simplement. Enfin, le chiffre global pour ce 45e week-end de l'année. 3 660 000 entrées, ce qui est quand même pas mal, même si c'est quand même un peu moins que la moyenne des années de 2016 à 2019, qui était environ à 4,4.
Alors j'ai 3 millions 7, moi, sur le...
Oui, ça a été augmenté entre le travail du matin et le soir.
Je ne balancerai pas, mais c'est Julien Bernard qui m'a donné ces chiffres.
On ne sait plus sur quel chiffre, se fier. Mais en tout cas, voilà.
En tout cas,
reste en dessous, comme tu dis.
Exactement. Mais si on regarde par rapport à la semaine dernière, c'est quand même plus 6%. Et sur les années, on va dire, post-Covid, c'est plus 25% en 2022, plus 21% en 2021. Et, Et bon, là, c'était avant Covid, c'est plus 26% en 2019, mais ce n'était pas en vacances. Donc, on en a parlé, le phénomène, hein, le film qui est en tête, on peut l'appeler comme ça, un phénomène, c'est le nouveau film de Hayao Miyazaki, Le Garçon et le Héron, qui cumule un score impressionnant de 647 000 entrées. Donc, on rappelait avec un premier mercredi absolument phénoménal. C'est quand même le deuxième meilleur démarrage pour un film japonais derrière Détective Pikachu, qui avait fait un premier week-end à 689 000 entrées, distribué par Warner.
Et si on prend les comptes, ça fait quand même du... par rapport à l'opening weekend, c'est quand même plus 244% versus Ponyo, plus 220% le château dans le ciel, plus 190% le vent se lève, plus 164% alors j'ai le titre anglais, Spirit Away,
Chihiro, le voyage de Chihiro.
Merci Max. Plus 111% le château ambulant. Donc c'est juste dingue.
Et le chiffre que tu as donné, Jérémy, c'est si on considère que Détective Pikachu est un film japonais.
Alors il y a eu débat tout à l'heure quand on a préparé quand nous avons préparé cette émission, il y a eu un long débat entre nous
qui restera hors micro.
Je l'ai cherché moi le meilleur démarrage pour un film japonais, il est pas sorti dans la liste que j'avais vue, c'est pour ça moi je l'avais en numéro 1 et en 2 c'était One Piece.
Ah d'accord.
Voilà, ah pas d'accord. Mal. One Piece, mais est-ce qu'il était sorti de façon normale, on va dire, dans les salles One Piece
Ouais, quasiment.
D'accord. Quoi qu'il en soit, je voudrais juste qu'on revienne un instant sur ce chiffre cumul week-end au-delà des chiffres du Miyazaki, parce que mine de rien, c'est quand même beau d'arriver à dépasser les 3,5 millions, même si on peut avoir une légère déception. Mais Julien, c'était pas gagné qu'on y arrive à ce chiffre.
Non, c'était pas gagné. On partait de loin. C'est même le deuxième meilleur score de l'année, ouais, si je me trompe pas. Mais par contre, je trouve qu'il y a quand même un petit manque en volume, puisque c'est vrai que on cherchait, si tu prends sur le mois d'octobre, on termine le mois d'octobre à 13,8 millions d'entrées. Et donc on est en dessous de 2022, lui qui a terminé à 14,26 millions, et en dessous de 2021 qui avait terminé à 14,32.
A priori, pardon, je rectifie, on est peut-être même le meilleur total dimanche de l'année d'après le commentaire d'Éric Marty sur Comscore.
Non, il y a eu une fois où on a passé 4000. Alors oui, en fait, c'est un autre débat.
Les avant-premières.
Non, c'est pas les avant-premières. C'est à partir de quand on commence à compter. Est-ce qu'on prend la première semaine de janvier qui commence pendant les vacances de Noël et là, cette semaine avait passé les 4 millions.
D'accord.
Ou alors, est-ce qu'on commence justement après les vacances de Noël?
Ouais.
Et dans ce cas-là, c'est le meilleur chiffre de l'année.
Donc ça reste quand même en tout cas un
très beau score.
Mais un peu décevant.
J'aurais aimé qu'on passe ces 4 millions. Ouais. Et c'est vrai que si tu prends sur le mois d'octobre, on est quand même en dessous de 2022 et 2021. Et alors, juste pour compléter, on est à 147 millions depuis le début de l'année.
Ouais.
Donc on est à plus 23% par rapport à 2022, plus 140 par rapport à 2021, plus 126 par rapport à 2020, moins 13 par rapport à 2019, qui... Si tu prends sur la même période, lui cumulait 170 millions. 2018, ça cumulait 161 millions. Et on était sur des mois d'octobre qui cumulaient 19 et 18 millions d'entrées. Alors, est-ce qu'on peut... Peut-être qu'à un moment, il va falloir arrêter de parler de 2016 à 2019 pour se focaliser, parce que c'est vrai que c'est un nouveau marché. Il faut tout remettre à zéro, hein, on l'a déjà dit. Donc, c'est vrai qu'on se compare toujours à ces années, mais c'est un renouveau presque.
Après, moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'on est en mois d'octobre qui a démarré très tard, en fait, aussi. Avec le marché, au lieu de reprendre au début du mois d'octobre, il a vraiment juste repris la semaine dernière. Ça fait que deux semaines qu'on a un marché qu'on sent.
Il a mis beaucoup plus de temps que d'habitude. Est-ce que, alors, il faudrait vérifier aussi également, mais je pense que les vacances ont démarré un tout petit peu 3-4 jours plus tard que les années précédentes. Puisque je crois que c'était le 22-23 octobre.
Si on voit qu'on est bien au-dessus du marché de 2019, c'est parce que les vacances étaient déjà finies.
Donc on verra au mois de novembre, mais en tout cas au mois de novembre, c'est pareil, il nous faut du 16 millions d'entrées pour rester dans cette courbe. En tout cas, on a un objectif de 180 millions d'entrées d'ici la fin de l'année.
Voilà, on se réfère aussi, pour répondre aux questions que vous pouvez vous poser, vous, en écoutant ce podcast, aux années précédant le Covid, parce qu'on avait passé les 200 millions d'entrées au cumul en France et que ce chiffre aujourd'hui semble inatteignable pour cette année. Et restera un objectif pour l'année prochaine. Donc c'est toujours cette barre symbolique des 200 millions d'entrées qui, au passage, avait été passée très régulièrement dans les quelques années qui précédaient le Covid, mais avait longtemps été inatteignable. C'est-à-dire qu'on ne l'a jamais passé dans les années 90, par exemple.
C'est vraiment l'émergence des multiplex qui, à un moment, a fait
même quand ils sont arrivés à la fin des années 90, il a fallu encore attendre quasiment l'arrivée du numérique pour voir les 200 millions passer.
Et puis, faut retenir la note positive. Hein. On est à moins 13% par rapport à 2019, qui est une année record. On est à moins 8% par rapport à 2018. et on progresse par rapport à 2021 et 2022. Voilà, on sait, il y a des périodes. Là, l'été a tout reboosté. Septembre était un petit peu plus compliqué. Ouais.
Sachant qu'il devait y avoir Dune cette semaine-là.
Exactement.
Alors, est-ce que ça aurait influé sur le Miyazaki ? Est-ce que ça aurait décalé ?
Il ne devait pas être à cette date-là, ouais, d'ailleurs. Voilà, tout à fait.
Et donc, mais il serait sorti dans l'année. Donc, finalement, il aurait peut-être eu le même retentissement.
En tout cas, ça n'enlève rien à l'extraordinaire succès du Garçon et le Héron et qui a d'ailleurs engendré, un peu comme les succès récents qu'on avait pointés, comme Le Consentement ou même peut-être même Five Nights d'ailleurs, des problèmes de capa, comme on dit, de capacité de salle dans certaines salles ou d'horaire, puisque les exploitants, pour une part, avaient peut-être pas anticipé une telle affluence. Et donc forcément que ça a occasionné des changements de salle. Alors c'est certes plus simple avec le numérique, mais néanmoins, ce n'est pas des choses faciles à gérer. Je sais qu'il y a eu beaucoup de complets sur Le Garçon et le Héron, avec peut-être aussi des entrées qui se sont reportées sur d'autres films. Bref, c'est assez notable.
Et c'est intéressant, je trouve, que tu compares Le Garçon et le Héron avec Le Consentement, parce que Le Garçon et le Héron a eu un public a priori nettement plus âgé que les films d'animation précédents de Miyazaki, notamment en salle. Et Le Consentement, pour le coup, c'est l'inverse. Il a un public qui est beaucoup plus jeune que ce qu'on attendrait de ce type de film.
Tout à fait. Et c'est vrai que Le Garçon et le Héron a dépassé tous les clivages qu'on pouvait encore entendre sur films d'animation, films non animés ou films live, et aussi films animés asiatiques ou films animés européens. Là, on sent que c'est un film qui touche vraiment tous les publics, toutes les tranches d'âge, à excepter peut-être les tout-petits, puisque le film ne leur est pas destiné, mais en tout cas, c'est vraiment un succès global.
L'impression qu'en fait, il se comporte comme un Pixar et que c'est l'aboutissement d'un travail à la fois des distributeurs et des exploitants qui dure depuis plusieurs années maintenant, et de voir qu'il arrive à faire vraiment des scores de Pixar, tout simplement.
Alors qu'il n'avait pas sorti de film depuis 7 ans, je crois.
Ouais. Là, depuis 10 ans.
Et alors qu'il a 82 ans.
Et ce qui est aussi notable, et ça il faut le souligner, c'est les scores hallucinants faits dans les cinémas à réessai, qui montrent aussi que c'est un public à la fois qui va voir des blockbusters, mais qui aussi va voir des films à réessai, et qui a fait revenir même une partie du public jeune, ce fameux public que cherche à capter une partie des salles à réessai, vers leurs salles. Et je vais quand même vous donner quelques indications, hein, puisque pour quand même vous resituer les scores, les Halles ont passé les 10 000 entrées juste sur le film au dimanche. Donc UGC Les Halles, premier de France, suivi du Grand Rex avec 7 000 entrées. Et puis après, quand on descend un petit peu dans le classement des salles, on retrouve quelques salles emblématiques à réessai, comme l'Arvor de Rennes, qui a fait 3800 entrées au dimanche soir. C'est complètement fou. Le Luxor à Paris, qui a fait 3700. Le Comédia de Lyon, 3600. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez, mais le Méliès de Montreuil, 3556. Le Diagonal Capitol, 3433. Le 14A, 3360. Enfin, avoir des scores au-dessus de 3000 au dimanche soir dans ces salles à réessai.
Ouais, qui sont des salles de 5 écrans, souvent 5 écrans maximum.
Le Méliès de Grenoble aussi, 3364. Voilà. Donc, non, tout ça pour dire que c'est un film qui est vraiment impressionnant par les résultats qu'il arrive à faire. Alors, on va peut-être passer au deuxième, Jérémy.
Est-ce que je te fais les continuations ou je te fais que les démarrages cette semaine ? Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire.
Il y a beaucoup de choses à dire. Alors, parlons peut-être des démarrages de la semaine dernière, pour commencer, à ce moment-là, si tu veux. Pas comme ça, parce qu'on peut les englober, peut-être, en disant que...
Sinon, je vais essayer d'aller vite et de manière synthétique. Allons-y. En deuxième place, on a 3 jours max. Donc, la comédie de Studio Canal qui perd que 13%, qui ajoute un tout petit peu plus de 500 000 entrées pour un cumul déjà assez impressionnant de 1 383 000. Très clairement, il va aller chercher les 2 millions d'entrées, c'est quasiment certain. En troisième, on en parlait tout à l'heure, c'était l'un des titres de la bataille des films d'animation. Bon, c'est sûr que là, c'est à peu près pareil que dans les autres territoires, mais c'est la Pat Patrouille pour son quatrième week-end, qui ajoute 389 000 entrées et qui cumule 2 149 000, alors que les Trolls, pour son troisième week-end, en ajoute 353 000 des entrées. Perte plus petite, moins 8%, mais en même temps, il est sorti il y a moins longtemps, et il cumule 1 281 000 entrées. Donc, il y a environ 100, 900 000 entrées d'écart. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux films-là, maintenant, avec la fin des vacances scolaires, les séances et donc les entrées vont drastiquement diminuer. On va être, comme on dit, sur du MSD, mercredi, samedi, dimanche. Et la fenêtre de tir pour continuer à engranger les entrées, elle sera beaucoup plus courte que pouvait être celle d'un Super Mario ou d'un Élémentaire, puisque le prochain film d'animation qui sort, et pas des moindres, c'est fin novembre, c'est Wish de Disney. cinquième du classement et la plus petite perte, c'est Killers of the Flower Moon de Scorsese. Troisième week-end, 236 000 entrées pour un total de 978 000 entrées. Donc là, comme on l'a dit, le score de Babylone est clairement en ligne de mire. En sixième, c'est une, toujours une petite déception quand même. C'est le film d'Albert Dumontel, distribué par Pathé Second Tour, qui perd moins 24%, mais qui ajoute 230 000 entrées pour un, j'ai envie de dire, petit cumul quand même global de 694 000 entrées. Ça va être très, 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 très compliqué, pour ne pas dire impossible, d'aller chercher les scores d'un Au revoir là-haut ou d'un Adieu les cons qui avait cumulé un peu plus de 2 millions d'entrées. Il faut quand même dire que quand on regarde un petit peu, notamment sur Allociné, que ce soit les retours presse, on va dire qu'ils sont en demi-teinte, et les retours spectateurs qui suivent aussi cette tendance. En 7ème position.
Alors attends, juste, ouais, je pardon. T'interromps deux secondes. Donc il est entre.
Il était 9... bien parti là, il était
c'est
il
vrai
on
qu'il
fire.
Il était lancé, mais
c'était
ah,
magnifique.
Il est arrêté.
Donc il est entre 9 mois ferme et Le Vilain. Et c'est vrai que, juste pour revenir sur le marché, est-ce qu'il n'y a pas eu un problème justement sur la venue des seniors au cinéma, ouais. Sur, alors, pendant les vacances, bien sûr, c'est place aux jeunes, évidemment. Mais vraiment, quand tu vas continuer avec que ce soit une année difficile, que ce soit un métier sérieux au mois de septembre, là que ce soit le cas sur le Dupontel, on est quand même loin des scores qu'ils nous ont habitués à faire.
Mmh. Alors, comme il y a un autre film français dont on va parler dans quelques instants, voilà,
tout à fait.
Sur les films, ouais, on va dire les divertissements exigeants, populaires et qui s'adressent à une, on va dire, un spectre assez large de spectateurs. Bon, Dupontel peut-être un peu plus senior que par exemple qu'un Toledo de Nakache, mais il y a des déceptions sur ce type de film.
Et pas seulement aussi sur ces films-là, mais aussi sur les nouveautés françaises de la semaine.
Exactement.
Elles ont eu beaucoup de mal.
Ouais.
Je reprends donc 7ème position, Saudis. 2ème week-end, perte de moins 27, 150 000 entrées pour un cumul de 465. Là, ça va être. Ça sent un peu la fin, puisque Five Nights at Freddy's, normalement, sur les films d'horreur, dès qu'il y en a un nouveau qui sort, il a tendance un petit peu à écraser les précédents.
Notamment que Five Nights, on le voit arriver très très fort.
Exactement.
Mais ça reste une très belle performance. Non,
ça reste une très belle performance. Et quand on voit des franchises, même de genre, qui en sont à 10 épisodes, il n'y en a pas tant que ça. Et arriver quand même à faire, au final, à faire plus de 500 000 entrées, voire les 600, c'est quand même pas mal du tout.
Pour un film interdit au moins de 16 ans.
C'est ce que j'allais dire, oui, interdit au moins de 16 ans.
Mais alors, cette année, je crois que 90% des films d'horreur qui sont sortis étaient interdits au moins de 16 ans et ils ont tous marché.
Ils ont tous été programmés, parce qu'il fut un temps où ils n'étaient pas programmés partout. Mais là, maintenant, c'est fini.
Il n'y a eu que Evil Dead et Saw qui est interdit au moins de 16.
Pas la main.
Ah, la main aussi, ouais.
Ouais.
Et alors, après...
8ème position, une année difficile. Bah là, c'est une autre déception pour le cinéma français. 3ème week-end, 135 000 entrées, perte de moins 22 et cumule à 789 000 entrées. Le million est encore jamais, mais ils vont, je pense que voilà, Toledo et Nakache et les équipes de Gaumont vont aller le chercher un petit peu au forceps, en rampant, je ne sais pas comment on peut dire, mais c'est vrai que c'est vraiment c'est une grosse, grosse déception. Est-ce que c'est le début d'un nouveau marché pour ce type de film? On verra. Ça va être très très intéressant à analyser dans les prochaines années.
Ouais. Ce qui est intéressant aussi de signaler, c'est qu'on avait déjà vu en septembre la relative déception pour
un métier sérieux
qui avait fait à peu près 50% de moins que ce qu'il faisait d'habitude, c'est-à-dire 500 000 contre 1 million d'habitude. Et puis, c'est effectivement pas le seul. Mais après, bon, est-ce que c'est conjoncturel ou est-ce que c'est lié au film même? Je ne sais pas.
Ça, on ne saura jamais. Mais en tout cas, ça.
Bah, on le saura la prochaine fois.
Voilà, mais celui-ci, plus le Dupontel, plus le Tomality, c'est quand même trois déceptions, ouais, sur des auteurs confirmés qui ne sont pas non plus avec des sujets totalement déconnectés des Français, hein, l'école, le militantisme écologique et avec Dupontel la politique. Donc on se dit, mais sur le papier, en fait, il n'y a rien normalement, plus la période, il n'y a rien qui justifie.
Si justement la conjoncture.
Mystère.
Pour moi, ces trois contre-performances, ça montre une chose, c'est que des réalisateurs qu'on attend comme des valeurs sûres et dont, quand les films arrivent, on les voit comme des valeurs sûres, on sait à combien ils doivent faire, mais les valeurs sûres, ça n'existe plus. Et on le voit depuis un moment. On a vu que Danny Boone a eu des échecs depuis le Covid, Franck Dubosc aussi. Il n'y a plus de valeurs sûres. aujourd'hui en termes de chiffres.
Prime à l'originalité et aux gens moins connus peut-être. En tout cas, en 9e position, on a enfin un autre démarrage après celui de Miyazaki en première position, puisque c'est Flo, le film sur la navigatrice Florence Artaud, distribué par Metropolitan, qui cumule 112 000 entrées pour son premier week-end. J'ai envie de dire, Julien, résultat plutôt conforme aux attentes ?
Ah non, moi je dirais vraiment en deçà des attentes. Pour en avoir un petit peu parlé avec Metro, à mon avis, ils attendaient beaucoup parce que le film a coûté cher.
C'est ce que j'allais dire, ouais, le budget il est de 16 millions.
Ouais, mais est-ce qu'un film sur... enfin, on parle souvent des déceptions par rapport au film sur le sport. Bon, la voile, ce n'est pas que le sport, ouais. Mais...
là, c'était un biopic. Il y avait un côté biopic aussi, là, donc...
Oui, mais quand on regarde le film sur Cousteau...
On est très en dessous du film sur Cousteau.
Voilà, mais Cousteau...
Cousteau, il passe le million, hein.
Oui.
C'était quoi déjà le film sur
l'Odyssée.
L'Odyssée, voilà. Oui, mais avec Pierre Niney.
Et Lambert Wilson.
Oui, Pierre Niney. Et déjà, on était presque déçus des chiffres.
Ouais, et il passait le million.
Mais le personnage est quand même un peu plus, je pense, connu.
Écoute, ça se discute. Il y a des fans aussi de Florence Artaud.
En tout cas, il y a un film sur lequel il n'y a pas de discussion, c'est quand même Le Consentement. Hein. Quatrième week-end, et bon, bah là, une nouvelle anomalie, Max. Hein. Plus 8%, 110 000 entrées supplémentaires pour un total, j'ai envie de dire, allez, on ose, hallucinant. De 395 000 entrées. Le film va aller chercher les 500 000 entrées. Je pense que c'est peut-être la plus belle surprise de cette année.
Attention, parce que ce qui va être intéressant à partir d'aujourd'hui, demain, ça veut dire que les jeunes ne sont plus disponibles. Alors, on va voir comment ça va se comporter mercredi, samedi, dimanche. Mais en tout cas, à mon avis, tu n'auras pas plus du tout. Là, ce qui est impressionnant cette semaine, c'est qu'il avait pris plus 100% et il a réussi à se maintenir au-dessus, plus 13%. C'est même incroyable. Mais alors, est-ce que cette semaine, comment il fait ? Puisque les jeunes, en tout cas, il n'y aura pas de lundi, mardi, mercredi, jeudi.
Il y a le début de soirée, peut-être. Il y a les étudiants aussi, les lycéens, les étudiants.
Est-ce que la vague sur les réseaux sociaux va s'essouffler aussi ?
Aussi.
Moi, je mise sur 500.
C'est le phénomène TikTok dont on parlait. On vous invite 500, à réécouter notre podcast de la semaine dernière. On expliquait en long en large ce phénomène de vidéo TikTok, mais voilà, c'est vrai qu'on ne sait pas non plus dans quelle mesure ça va continuer ou non, comme on sait que sur les réseaux sociaux ça va très vite passer à autre chose.
En tout cas, Jérémy a tout à fait raison sur l'excellente surprise que ça a été depuis les vacances, la carrière du Consentement, mais là ce à quoi on peut s'attendre, c'est qu'il y ait une chute qui soit similaire aux chutes en fait, des films d'horreur et des films d'animation à partir d'aujourd'hui en fait.
Bah, ce sera à vérifier, mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que le public du Consentement est extrêmement jeune comparativement évidemment au public du Consentement à son lancement. Après, moi, je veux vraiment attirer votre attention aussi sur un point, et on va y revenir aussi au moment de parler du règne animal dans quelques instants. C'est toujours des surprises en termes de chiffres, mais à mettre en relation, et on le disait à l'instant pour Flo, avec les attentes liées au budget du film et à ce qu'il peut engendrer. Donc je pense qu'il faut quand même rappeler que le Consentement avait démarré aussi 50, bien en dessous.
50 000, non, c'est ça
En tout cas, il avait démarré très bas par rapport à ce que la pan-européenne, enfin pan-distribution, en attendait. Et ils avaient eu du mal à le placer dans les salles. C'est aussi ce qui a fait, on en parlait de ce côté un peu goulot d'étranglement, parce que beaucoup de spectateurs n'ont pas forcément pu aller voir le film parce qu'il n'y avait pas de séance. Et c'est malheureusement aussi lié... aux différentes sorties de la semaine et à la capacité ou non d'entrer un film dans un cinéma. Et ça a changé, il y a eu plus de séances, plus de salles qui l'ont proposé la semaine dernière, donc ça a permis aussi au film de maintenir ses entrées. Donc voilà, tout ça c'est à prendre en considération parce que évidemment sur le papier 395 000 ça paraît beaucoup, mais si on se replace, on le faisait tout à l'heure, en 2017-2018 ou 2019, un film comme Le Consentement pouvait prétendre peut-être à aller chercher les 300 000. Donc tout est relatif en fait. C'est ça aussi qui est intéressant avec ce box-office.
Ah, mais quand on regarde le score de certaines comédies populaires françaises qui ne feront jamais 400 000 entrées,
bien sûr.
Des films qui ont fait moins de 200 000 entrées avec des Franck Dubosc ou des Clovis Cornillac, on va en reparler bientôt, mais des acteurs confirmés qui ont... Alors là, c'est certes Jean-Paul Rouve, mais c'est Jean-Paul Rouve dans le rôle quand même, dans un rôle ô combien...
Loin de Jeff Tuch.
Voilà, très très loin de Jeff Tuch, le crâne rasé, dureté du sujet, l'actrice qui n'est pas connue du grand public.
Mais ce que je veux dire, c'est que quand le film rentre en production, l'adaptation d'un best-seller dont on a parlé, alors certes qui est très difficile, mais il y a des attentes qui sont au-dessus de celles des chiffres retrouvés la première semaine. Et donc il y a une sorte de réparation de ces chiffres-là, mais qui effectivement là va au-delà de ce qu'on pouvait attendre. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais bon, ça, c'est à relativiser. Quoi qu'il en soit, il y a deux films de la panne qui se suivent. Max,
juste si on compare, autre adaptation d'un roman qui a eu énormément de succès, Chanson douce, avait fait 217 000 entrées.
Voilà. Ouais, qui avait quand même eu le Goncourt hein, en 2019.
Qui était aussi
sur un sujet très difficile.
C'est pas le concours des lycéens qu'il y a eu ? Enfin bon, peu importe. Mais en tout cas, oui, il y a eu du sujet très difficile.
Alors, juste derrière, un autre film de la panne européenne, inestimable, donc le Eric Fraticelli Universe revient sur les écrans français avec un premier week-end à 106 000 entrées. Si on rajoute les 19 657, pour être précis, entrées de l'avant-première, ça fait quand même un premier week-end très très haut pour ce type de film, 126 167 entrées. Eric Fraticelli, dès qu'il arrive sur les écrans, on a l'impression que maintenant c'est les 400 ou voire 500 000 entrées acquises.
Ouais, et en même temps, tu as Didier Bourdon, alors on peut aussi avoir une vision un peu différente.
Après, il faut regarder les parts de marché, mais je sais que dès qu'on trace la ligne nord-sud, dans le sud, ça explose.
Ouais, évidemment, ça explose à Marseille. Ouais.
Ouais, tu vois, Arthur me soufflait que les chatouilles, pour revenir incomparable au consentement, avait fait 389 000 entrées en 2018.
Qui était passé par Cannes.
C'est vrai, pas le consentement. Mais néanmoins, voilà, alors c'est encore au-dessus, hein, le consentement. Il va faire peut-être qu'il s'arrêtera à 500, hein, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est beau.
On en reparlera, Aurélien, on en reparlera.
Voilà. Alors, le règne animal,
Le règne animal, cinquième week-end, 100 000 entrées, perte de 28%. Mais cumule à 937 000 entrées. Donc, bon, là, on peut le dire, le million, ouais. Il sera atteint très bientôt. Quand on regarde les chiffres du début, c'était.
J'ai écouté il y a deux semaines, je l'avais dit.
Il y a trois semaines. Oui, c'est vrai que tu l'avais dit. Il y a deux semaines, tu l'avais dit.
On était quoi sur cette trois semaines
Avec Eric Toledano et Lina Cash.
700 000 entrées, quand on regarde les premiers chiffres.
Oui, on espérait qu'il passerait les 600, 700 et
au tout début, c'est ça, était autour de 700, 800 si on poussait vraiment le curseur.
Mais là aussi, précision importante, faudrait avoir quelqu'un sur le canal avec nous. Malheureusement, il n'y a personne pour l'instant sur le canal chez nous tout de suite. Mais néanmoins, ce qu'on peut signaler, c'est que le film a coûté très cher et que certainement que le million d'entrées était important, pour pas dire nécessaire, pour rentrer dans les frais.
Oui, mais une fois de plus, quand tu regardes les démarrages et la tenue du film ensuite, tu peux très bien te dire que c'est pas acquis tout de suite. Il faut à la fois un vrai travail. Là, je pense que la presse et les spectateurs ont vraiment été prescripteurs pour créer le bouche à oreille et aussi le travail de l'équipe de programmation chez Studio Canal pour maintenir le film, pour maintenir la belle exposition. Tu parlais des problèmes du consentement. Bah, eux, ils avaient une très belle exposition au début, mais au vu des chiffres, on imagine quand même, vu la concurrence, qu'ils ont quand même dû jouer des coudes pour garder cette belle exposition et faire que les séances soient là pour que le public puisse aller le découvrir.
Et puis, ils se sont complètement détachés de Bernadette qui ne fait que 32 000 entrées sur le week-end, là où le règne animal en fait 100 000. Quoi. Enfin, c'est quand même dingue. C'est le 12e film du top et le 12e à faire plus de 100 000 entrées.
On peut espérer que ces jolis scores peuvent rassurer un petit peu les producteurs, parce que c'est vrai qu'après sur les films de genre, après Acide qui avait terminé la course à
250, je crois. Ouais.
Comme quoi, justement, avec un démarrage un peu faible, alors il y avait aussi la période, mais ça prend du temps. Tu ne fais pas venir les gens sur les films de genre comme ça en masse directement.
Et alors, donc, rapidement, sur les autres sorties de la semaine dernière.
En 13e place, grosse déception pour Complètement cramé d'Universal Pictures, qui, malgré l'adaptation d'un best-seller, donc un livre de Gilles Le Gardinier, donc le film aussi réalisé par lui, qui avait, je crois, été vendu en librairie à plus d'1,5 million d'exemplaires, avec John Malkovich, Fanny Ardant, Emily Deceyne, il ne fait que 96 000 entrées. Alors, bon, maintenant.
C'est pareil, quand tu regardes le marché, tu dis grosse déception pour Flo, qui était à 130, mais qui a coûté 16 millions.
Non, j'ai un petit doute sur Flo. Là, clairement.
Ben justement, le film il coûte quand même 3 fois moins cher ou 2 fois moins cher que Flo. Il est à 30 000 entrées d'écart. On va voir où est-ce qu'il va finir.
Sur un Fanny Ardant, tu vois, je l'attendais plutôt autour de 150-160.
Après, pour le coup, voir que ce soit Flo complètement cramé ou même, on va en parler rapidement après, Monsieur le Maire, on a des films qui démarrent à peine 100 000 et moins de 150 000, voire encore moins pour Monsieur le Maire, alors qu'on est sur un mercredi où le marché est décuplé, une semaine, enfin 5 jours de vacances scolaires, avec normalement un marché qui est très fort. D'ailleurs, le marché a été très fort. Donc, pour le coup, c'est vraiment des démarrages à partir desquels, normalement, la durée de vie des films devrait être plutôt courte, et donc c'est quand même des déceptions. Enfin, moi, de mon point de vue, c'est quand même des déceptions.
Je suis d'accord. Derrière, un autre film Universal Pictures, L'Exorciste Dévotion, pour son quatrième week-end, 67 000 entrées sont ajoutées. Il en est à 720 000 entrées. Il va terminer tranquillement autour de 750. Une autre petite déception, en 15e place, c'est le second week-end du film The Old Hawk de Ken Loach, qui certes ne perd que 12%, mais rajoute 62 000 entrées pour en cumuler 166. Alors c'est sûr, on est loin des scores de Jimmy's Hall, La Part des Anges, ou
même en
ou Daniel
400
Blake.
000, il n'y en a pas beaucoup à mon avis des Ken Loach.
Peut-être si on regarde. Alors,
on voit bien que les films avec dimension sociale ont du mal à marcher en ce moment.
Peut-être une certaine lassitude. En tout cas, après, on enchaîne avec trois démarrages. L'Enlèvement, donc film de Marco Bellocchio, distribué par Ad Vitam, qui était présenté à Cannes, qui fait un premier week-end à 68 000 entrées. Derrière, alors, une autre déception côté français, mais Monsieur le Maire, distribué par UGC, qui fait un tout petit premier week-end à 63 000 entrées. Donc là, une fois de plus, Clovis Cornillac, depuis Couleur de l'incendie qu'il avait réalisé, c'est pas trop ça. En 18e position...
Même si Couleur de l'incendie, c'est quand même autour de 800 000. Hein.
C'était plutôt l'état givré.
Mais peut-être givré, ouais, en début d'année, malheureusement.
En tout cas, tu nous apportes que des mauvaises nouvelles.
Non, parce que.
Je crois que les auditeurs sont partis. Ils sont partis parce qu'ils se sont dit, il n'y a plus de succès, c'est fini.
Non, j'allais terminer par je trouve personnellement deux chiffres plutôt bons. En 18e position, le théorème de Marguerite, distribué par Pyramide, qui fait quand même 45 000 entrées pour son premier week-end. Et les retours spectateurs et presse sont très bons. Enfin, voilà. C'est quand même un film assez exigeant, parce qu'on parle quand même de théorèmes, de mathématiques, de recherche. Ouais. Donc, c'est pas le sujet, on va dire, prédilection.
Il y avait La Boire Royale qui est sortie il n'y a pas longtemps et qui termine sur autour de 200 000 entrées.
Moi, je trouve que c'est plutôt un bon démarrage. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais
on fera venir Pyramide, un de ces quatre, pour
et,
le podcast.
Et en 19e position, alors ça, on ne l'avait pas vu venir, et je trouve que c'est quand même des très, très beaux résultats, même si effectivement, avec la fin des vacances scolaires, ça va un peu se tasser. Mais c'est le film de Eurozoom, Kata. Le brave Beluga qui est adapté, je crois, d'une série animée, Arthur, une série Netflix, je crois.
Oui, c'est ça qu'on a regardé. Mais c'est vrai que c'est un peu l'outsider Katak qui sort sur 320 copies. C'est vrai qu'en plus, déjà avec deux grosses belles propositions d'animation, à savoir La Patte Patrouille et Les Trolls en face.
Moins 7%, 35 000 entrées pour son second week-end et un cumul à 90. On pensait que les films jeunes publics, comme on peut les appeler, n'étaient que l'apanage de KMBO. Non, Eurozoom montre qu'après Suzume, qui avait cumulé plus de 500 000 entrées et qui est, on va dire, un peu plus proche de l'univers de Miyazaki, ils savent sortir des films d'animation pour tout âge. Bravo à eux.
Et pour rester dans l'animation, je voulais juste souligner que pour sa 20e semaine d'exploitation,
je savais que tu allais en parler.
Le film Élémentaire cumule encore 22 000 entrées.
Alors qu'il est disponible en DVD.
Alors qu'il est disponible depuis 4 semaines en vidéo.
Est-ce qu'il va aller chercher ses 3,3 millions?
Il faut souligner quand même le travail de programmation qui est quand même assez. Le travail de maintien du film qui est quand même assez, assez impressionnant.
Bravo Disney, bravo Fred.
On aura fait, je crois, à peu près le tour à signaler quand même que The Creator, on avait parlé pas mal de fois à sa sortie, 737 000 entrées au cumul. C'est assez proche finalement de Bernadette. Bernadette qui est à 760 000 au cumul.
On n'a pas parlé de Taylor Swift.
Taylor Swift, il est un peu en deçà. Il est un peu. Mais d'ailleurs, je crois qu'il va bientôt quitter le classement. Hein, c'est fini. Là.
Oui, c'est fini. Il avait 4 semaines d'exploitation.
C'est ça, c'était 4 semaines. Donc là, 63 000 entrées, c'est. Finalement, on voit que ça sert à rien de rester 4 semaines à l'affiche, c'est pour faire le même score que ceux qui restent une ou deux soirées.
C'est
un peu ce qu'on peut se dire en voyant ces chiffres qui sont loin des records mondiaux. Et puis à signaler quand même que les films du Losange font 42 000 avec Anselm, le documentaire de Wim Wenders, qui est toutefois plutôt pas mal. Documentaire en 3D, on le rappelle également. Bref.
Pas au niveau de Pina quand même.
Non, pas au niveau de Pina, mais bon, voilà, il fallait le souligner. En tout cas, n'hésitez pas à aller évidemment voir tous ces films. Alors, la semaine prochaine, on a beaucoup de sorties, enfin beaucoup de sorties finalement, moins que cette semaine, enfin moins que la semaine qui vient de s'écouler.
Mais quand même pour une semaine hors vacances, il y a du lourd.
Des sorties à enjeu, on va dire, avec le classement Twitter mis en ligne ce matin par ma fille qui, je le sais, aurait bien aimé être avec nous ce soir. Arthur, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce classement et quelles étaient les propositions?
Alors, quatre films listés. Le premier qui écrase toute concurrence, c'est le film La Passion du Dodin Bouffant, le film qui représente.
C'est La Passion de Dodin Bouffant. Pas du Dodin Bouffant. C'est La Passion de Dodin Bouffant.
Le du Dodin Bouffant, c'est on dirait un Miyazaki un peu. Tu sais, c'est le, il se balade comme ça.
C'est Le Garçon et Dodin Bouffant.
En deuxième position, on retrouve le biopic de SND sur l'abbé Pierre. En troisième position, le film Five Nights at Freddy's. Et fait assez rare pour le souligner, c'est en dernière position qu'on retrouve le nouveau film de l'écurie Marvel, The Marvels.
Alors là, est-ce que Disney est en train de tirer la sonnette d'alarme? Le sondage des briefings.
Écoutez, c'est vrai qu'en tout cas, on dit, hein, c'est une sortie mondiale. Donc il n'y a pas d'avant-première sur Marvels. Donc on verra ce qu'il en sera au hall. Mais normalement, il devrait y avoir un bon 9h.
Aucune avant-première?
Je crois pas, non. Vous avez des avant-premières sur Marvels? Non.
On va avoir ça mercredi matin.
Ouais, on va voir ça. Mais l'attente, en tout cas, n'est pas aussi forte que précédemment sur les autres productions Marvel. Donc 9 sorties au total. On l'a parlé de l'Abbé Pierre, qui a eu déjà pas mal d'avant-premières depuis la rentrée. Gros enjeu pour SND, qui a présenté ce film déjà l'année dernière lors du congrès de la FNCF. Le film n'était évidemment pas fini, mais c'était déjà annoncé comme l'un des moments forts, un peu dans le sillage de Simone l'an passé, sorti par Warner. L'Abbé Pierre, donc porté par l'acteur Benjamin Laverne, on va voir ce que ça donne, et réalisé par Frédéric Tellier, qui nous avait notamment offert un magnifique film, L'Affaire Esquin, je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais qui était très très bon. Alors The Marvels, c'est le retour de Marvels, et on verra justement quelle est l'importance des films de super-héros aujourd'hui, à la fois en France, mais dans le monde. On verra ça la semaine prochaine. La passion de Dodin Bouffant. Oui, t'allais dire un truc.
C'est le premier Marvel de 2023 ou pas?
Non.
Non, ça a été un peu en demi-teinte parce qu'il y a eu Ant-Man 3 qui n'avait pas trop performé, voilà. Et Les Gardiens qui, lui, pour le coup, a plutôt bien performé.
Ah, mais est-ce que Ant-Man, il a fait un million?
Ils ont
question.
Tous fait un million jusqu'ici.
Si on se posait la question est-ce que le million?
D'un autre côté, Disney n'a pas sorti de film, là, je pisse le créateur qu'on mentionnait à l'instant. Donc, La Passion de Dodin Bouffant, le film de Tran Anung, prix de la mise en scène à Cannes et représentant, on le rappelle, de la France aux prochains Oscars. Est-ce qu'il sera ou non parmi les nommés? Ça, c'est encore à suivre dans les prochains mois. Simple comme Sylvain, qui s'était lui aussi distingué à Cannes, distribué par Memento. Oui, j'ai oublié de dire, mais évidemment, La Passion de Dodin Bouffant, c'est Gaumont. Simple comme Sylvain, c'est distribué par Memento. Et le film de Monia Chokri, là aussi attendu depuis sa bonne réputation au Festival de Cannes. Five Nights at Freddy's, je crois qu'on en a assez parlé. Ça tourne à Séoul, c'est le nouveau Kim Ji-woon, distribué par The Jokers, là aussi présenté à Cannes, donc sous le titre Cobweb à l'époque. Et c'est bien sûr le nouveau film du réalisateur culte de Bittersweet Life que The Jokers va ressortir.
Le bon, la brute et le cinglé.
Le bon, la brute et le cinglé.
Il va y avoir une introspective de ce réalisateur, d'ailleurs, en sa présence même.
Et j'ai rencontré le diable également.
Avec comme comédien principal Song Kang-ho, qui était le comédien de Parasite, qui était aussi dans Le bon, la brute et le cinglé.
Voilà.
Le grand Song
Kang-ho.
Et un film qui fait référence, bien entendu, au Saturn à Manhattan de Tom DiCillo, sorti en 1995. Premier film, pour la petite histoire, à avoir remporté le Grand Prix à Deauville, puisque la compétition s'était créée lors de cette année-là. Goodbye Julia, c'est chez ARP. L'hiver d'Edmond et Lucie, là, c'est un film d'animation, bien sûr, jeune public, et c'est du côté de Cinéma Public Film, s'adapter d'une série que les petits connaissent bien. Pierre Feuille Pistolet, c'est chez New Story. Et alors, je voudrais m'attarder sur quelques ressorties, et surtout une d'entre elles, parce qu'il y a celle de Délicatessen chez Splendor Film, mais il y a surtout, et avant tout peut-être, celle de L'Armée des Douze Singes chez l'Atelier Distribution. On sent que l'Atelier Distribution a fait les choses en grand. Ils ont voulu en faire quasiment une nouvelle sortie, plus qu'une ressortie de ce film ô combien mythique de Terry Gilliam. Peut-être le meilleur rôle ou l'un des meilleurs rôles de Bruce Willis de toute sa carrière, avec celui de John McClane. En tout cas, c'est vraiment un film.
Peur.
Oui, mais c'est en tout cas un film qui m'est cher. Hein. Je sais pas si ceux d'entre vous qui ont pu le voir en salle s'en souviennent. C'était en 96, sorti le 28 février 1996 à l'époque par le distributeur UFD.
On l'a vu en salle, Arthur. Hein.
Non, malheureusement pas.
Et il avait
ça s'appelait La Belle Époque.
Et il avait totalisé 2 290 000 entrées à sa sortie. Alors à l'époque, évidemment, c'était un autre marché, mais c'était une très grosse performance. Et il réunissait, on le rappelle aussi quand même, Bruce Willis et Brad Pitt au sein d'un même film. Brad Pitt qui était encore tout jeuneau, qui sortait du succès de Seven.
Très peu connu, ouais.
et Madeleine Stowe, évidemment, qui elle aussi était à l'affiche de beaucoup de films hollywoodiens des années 90, qui a un très beau rôle dans le film. L'Armée des Douze Singes, Julien, tu n'as pas un souvenir lié à ce film, non? Personne n'en a ici
Non, c'était vraiment surtout sur l'époque. On enchaînait, j'ai souvenir, comme on disait, Seven, c'était des gros films.
Il y avait Hit, hein, le même mois, il y a Hit et L'Armée des Douze Singes qui sortent, hein, quand même. Donc,
c'était la période, on va dire, des grands réalisateurs.
Et Casino.
Avec, et ils apportaient leur touche originale à chaque fois. Ils étaient capables de se réinventer.
Ouais.
Moi, L'Armée des Douze Singes, je me souviens qu'il était dans les vidéoclubs quand j'allais dans les vidéoclubs, et ça me faisait peur parce que je pensais que c'était un film de guerre. Du coup, je n'osais pas le regarder quand j'étais.
Il faut le regarder. Musique somptueuse et mise en scène incroyable de Terry Gilliam, qui est venu en France là il y a quelques jours à l'UGC Léal, au Festival Lumière d'abord, et puis après à l'UGC Léal présenté. Je crois que c'est pas passé à la bibliothèque aussi. En tout cas, présenté le film. Il a donné une masterclass à l'UGC Léal, ce qui était visiblement en ont eu un souvenir très ému. Donc voilà, une ressortie à signaler. D'ailleurs, le film ressort également là prochainement, toujours chez l'Atelier Distribution, en DVD, Blu-ray et UHD pour la première fois en France. Donc Ultra HD et Blu-ray, allez-y, n'hésitez pas.
Ça tu vas l'acheter, Aurélien?
Écoute, je crois que je
tu vas craquer.
J'ai déjà l'édition Arrow, you know.
Ah, là.
Mais bon, en tout cas, écoutez, il faut aller voir L'Armée des Singes en salle pour ceux qui ne l'auraient pas découvert. Et aller voir évidemment aussi les autres nouveautés si vous en avez l'occasion. Bref, merci à tous. Et on se retrouve la semaine prochaine et dès mercredi pour le démarrage de tous ces films. À bientôt sur Débrief Film.
Salut.
Merci.